Réplique, les intellectuels, le peuple et la République, avec Jacques-Alain Miller et Jacques Rancière. Début avril, l'Obs publiait, sous le titre « Les idiots utiles du FN », un entretien d'Éric Eschiman avec le philosophe Jacques Rancière. L'auteur de « La haine de la démocratie » affirmait notamment que certains intellectuels dits « républicains » faisaient depuis quelques années le lit de l'extrême droite en dévoyant les valeurs universalistes au profit d'un discours xénophobe. La charge était rude et valut à Rancière une réponse épistolaire de son vieux camarade, le psychanalyste Jacques-Alain Miller, publiée notamment sur le site de la Règle du jeu. S'ensuivit une réponse de Rancière à la réponse de Miller sur le même support. Passionné et concerné au premier chef par cette controverse, j'ai souhaité qu'elle se poursuive à réplique. Et je remercie très chaleureusement Jacques Rancière et Jacques-Alain Miller d'avoir accepté mon invitation. Pour qu'il n'y ait ni malentendu ni procès d'intention, pouvez-vous résumer, Jacques Rancière, la thèse que vous avez développée dans l'Obs 3 mois après la grande manifestation du 11 janvier et au lendemain des élections départementales marquées par une nouvelle poussée du parti de Marine Le Pen, Jacques Rancière?
D'abord, l'entretien a été fait un peu avant. Bon, il a été sa publication a été repoussée, mais elle n'était pas au lendemain des élections départementales. Mais bon, pas mal avant, mais à un moment effectivement où déjà on pensait le Front National va avoir de nouveaux progrès. Et la question pour laquelle j'étais convoqué par Éric Eschiman était celle-ci, quoi. Comment se fait-il que le 11 janvier, il y a des millions de personnes qui défilent dans la rue pour défendre la liberté d'expression, les valeurs universalistes, et puis que ces mêmes personnes, ou en tout cas que tant de monde, 2 mois après, se prépare à voter pour le Front National. Ça, c'était la question. Ma réponse était que précisément, le 11 janvier, il était impossible de distinguer exactement les motivations pour lesquelles les gens étaient dans la rue. Que, par conséquent, il y avait eu cette grande manifestation qui pouvait assumée de manière complètement différente par des gens pour qui Charlie Hebdo, c'était la tradition gauchiste subversive, mais aussi par des gens pour qui Charlie Hebdo, ça représentait la lutte résolue contre les terroristes et les obscurantistes islamistes, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'argument par rapport à la question, quoi, qui comprenait en son cœur le fait que, depuis un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de thèmes qui ont été développés, qui étaient au fond comme une sorte de solution de rechange, de substitut qui était proposé à l'extrême droite pour ces campagnes. Et bon, c'est de fait, on a vu depuis un certain nombre de temps des thèses dites républicaines remettant sur le devant de la scène des grandes valeurs universalistes, laïques, avec en même temps un changement complet par rapport à leur signification initiale. Et en particulier, ce que j'ai commenté, c'est cette étrange déplacement de la question de la laïcité, qui dans ma jeunesse était une question de l'école, en gros de savoir si l'État finançait l'école privée ou pas. C'était ça la laïcité quand j'étais jeune. Et puis le fait de voir que la laïcité, un demi-siècle après, c'était le fait de savoir ce que les gens devaient porter sur leur tête. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe pour que ce qui définissait à une époque les devoirs de l'État, à savoir les devoirs de l'État de considérer tous les élèves étant dans une école comme tant les mêmes, et tout d'un coup le moment où la laïcité au contraire devient le moment de cibler exactement une population en disant ces gens-là sont pas laïcs.
Oui, mais Jacques Rancière, à l'époque où j'étais moi-même élève, donc un peu plus tard que vous, je sais que dans les lycées et notamment dans les lycées de filles, puisqu'il y avait cette séparation, quand il y avait une croix qui dépassait, c'est une croix sur le pull, Les surveillants demandaient aux élèves de rentrer la croix dans le pull. Donc, l'exigence d'une certaine discrétion religieuse pour les élèves se faisait déjà jour, et tout le monde sait que la laïcité en France est née d'un combat extrêmement dur contre l'Église catholique et contre toutes les formes de prosélytisme catholique qu'il pouvait y avoir jusque dans l'enseignement public.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, la laïcité, ça a consisté à mettre l'Église catholique en dehors de l'école qu'elle contrôlait complètement depuis 1850. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, en même temps, l'école publique était une école où on mangeait du poisson le vendredi. C'est-à-dire qu'on obéissait à un rite, est proprement celui de la religion catholique. Je peux vous dire aussi que, votre histoire des croix, le deuxième point, ça dépendait des endroits. Moi, je rappelais, je crois, dans ma réponse à Jacques Alain Miller, ou peut-être dans cet entretien, que lorsque j'étais jeune, le jour des communions, voilà, on venait dans les classes et puis on distribuait des images à nos copains. Et on était complètement inconscients, peut-être. On savait même pas s'ils étaient athées, s'ils étaient juifs, s'ils étaient protestants. On n'en savait rien. Et au fond, les copains acceptaient les images. J'ai jamais vu personne nous les jeter à la figure. C'est le deuxième point. Le troisième point est, au fond, la question de savoir est-ce que le fait d'avoir un foulard sur la tête est un signe de propagande religieuse? C'est comme ça, à mon avis, le point décisif de savoir si un mode d'habillement traditionnel est une forme de propagande religieuse. Ça, j'avoue que je n'en sais pas. Et en plus, l'idée même de propagande est compliquée, parce qu'il y a toujours eu de la politique au lycée, par exemple. Alors, est-ce qu'il y ait de la politique au lycée, c'est un prosélytisme qui est absolument opposé à la laïcité? C'est une question qui n'a rien d'évident.
Jacques Alain Miller.
Oui, je suis un peu perdu dans cette abondance de références. Je crois que il y a une chose qui m'a frappé dans le texte de Rancière quand je l'ai lu, qui m'a mis la plume à la main, c'était sa définition, au fond, qui m'a paru étriquée de la liberté d'expression. Considérant que, au fond, le terme n'était justifié que quand il concernait les rapports de l'État et des gouvernés. Bon. Et, de nouveau, à propos de la laïcité, quand il met l'accent sur le fait qu'il y a un déplacement qui s'est opéré pour que maintenant ça concerne des individus et l'habillement des individus dont considère que l'interprétation, en effet, est ouverte à plusieurs sens. Ça m'a paru tout de même constituer des marques de ce que j'appellerais, on parlait au temps du marxisme triomphant, du crétinisme parlementaire, j'ai été frappé, j'ai cru voir là des marques de crétinisme juridique. Tout le monde a considéré que la liberté d'expression était en cause dans l'affaire du 11 janvier et ça a mobilisé bien au-delà du débat franco-français. Il y a eu une réaction internationale à ce propos. Et d'autre part, la laïcité, l'esprit laïque, c'est en effet une certaine exigence de discrétion qui n'était pas dans la loi, qui faisait partie des mœurs. Bon. Et les mœurs sont des lois non écrites, si on veut, tant que tout le monde les respecte. À partir du moment où d'autres mœurs s'imposent, se marquent, il y a en effet, la loi reçoit un autre sens, ou même on se met à fabriquer d'autres lois. Et il me semble que ce qui a changé par rapport à l'époque où tu distribuais des images de ta première communion catholique à tes camarades, c'est que il y a aujourd'hui une pression qui est exercée sur, disons, les mœurs, les coutumes françaises traditionnelles, et que cela provoque un raidissement de l'autre côté qui me paraît absolument logique et inévitable. Des révoltes logiques jadis, eh bien, il y a une révolte logique de la part de ceux qui sont les tenants de mœurs traditionnelles. On ne va pas me demander qui a raison, les deux ont raison.
Ah donc, vous direz logique, mais pas forcément légitime, si vous dites que les deux ont raison.
Elles sont logiques et légitimes. Je crois qu'il faut tenir les deux bouts de la chaîne. C'est ce que font les jésuites, n'est-ce pas? Il y a d'un côté le pape jésuite qui dit « si on touche à ma mère, je mets un coup de poing », ce qui est l'équivalent, un degré en dessous, de la réaction
c'est le coup de boule de Zidane, voilà. Disons, en tout cas.
Et de l'autre côté, c'est pas très pontifical. Et de l'autre côté, la revue des jésuites, les études, publie les caricatures anticatholiques de Charlie. On tient les deux bouts de la chaîne et on essaye de comprendre.
Jacques Rancière.
Il y a plusieurs choses là-dedans. Bon, je pense que, par exemple, bon, la question de la liberté d'expression. Bon, j'ai dit effectivement, bon, c'est quelque chose qui a une définition juridique au sens où ça définit effectivement ce que peut ou ne peut pas l'État par rapport aux individus. Bon, voilà. Par ailleurs, bon, bah, disons.
Le juridique n'est pas le tout de la question.
C'est pas le tout de la question, absolument, mais le tout de la question, c'est le tout de la question, c'est que, on le sait que, depuis que l'humanité existe, il y a toujours eu des gens qui en ont tué d'autres parce que ces autres-là disaient des choses qui leur plaisaient pas, quoi. Donc là, on n'est plus dans la question de la liberté d'expression, on est dans la question finalement de la tolérance, qui est une question qui est différente.
Ce qui est, tout de même, nous sentons s'exercer sur la planète entière maintenant une pression qui s'est manifestée par exemple avec la fameuse fatwa du 14 février 1989, je m'en souviens, c'était mon anniversaire, contre Salman Rushdie, de fermer la bouche sur l'ensemble de la planète à tout le monde. Il y a là, au fond, un désir décidé qui a une force admirable, si l'on veut. Et en face, on trouve chez un certain nombre, au contraire, dans nos contrées, une sorte de désir flou, de malaise, de mauvaise conscience, et le contraste est très frappant, et je l'avais trouvé spécialement dans ton entretien.
Jacques Rancière.
Il y a une chose, on peut dire que, bon, il y a un certain nombre de pressions qui sont liées à une espèce de revival, de revivance, ou de résurrection, de force nouvelle de l'islam.
Aujourd'hui, qui est
en même temps lié aussi, bon, quand même, malgré tout, à l'état du monde. C'est-à-dire que, il ne s'agissait pas de donner aucune justification. Bon, de fait, il y a quand même eu des politiques un peu démentes qui ont été menées depuis des décennies et des décennies, qui ont amené cette recrudescence, qui est très forte. C'est-à-dire qu'on a pu, dans un certain nombre de pays, effectivement, constater ce qui se passait au moment de la première et deuxième guerre du Golfe, à savoir que des femmes qui mettaient plus les voiles les remettaient. Je veux dire que, bon, alors ça, c'est le contexte, général, bon, qui effectivement crée aussi le malaise dont tu parles. Et bon, ça, c'est le contexte général. C'est-à-dire que, bon, si on va, alors, si on cherche à élargir, on arrive toujours à ce point où finalement on ne sait plus finalement quelle est la cause dernière, et par conséquent, on ne sait plus où frapper. Non, la question pour moi, si on prend la question du voile à l'école, pour moi, c'est une question de police d'établissement scolaire, quoi. Et pour moi, la police d'établissement scolaire n'implique pas qu'on crée justement cette espèce d'énorme magma discursif autour, bon, qui va donner aux gens la bonne conscience que eux ils sont laïcs, universalistes, républicains purs et durs, ce qui permet effectivement aujourd'hui à Marine Le Pen de dire que bon, et aller contre ces communautaristes, islamistes, anti-universalistes. Et ça, je crois que c'est un problème qui est réel.
Mais alors, Jacques Rancière, quand même, il n'y a pas que le voile islamique. En 2004, un rapport est paru concernant justement les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans certains établissements scolaires. C'est ce qu'on appelle le rapport Aubin. Et l'une des conclusions du rapport est celle-ci. Tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit être d'abord un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses, du halal autorisé et du haram interdit. Rousseau est contraire à ma religion, Madame Bovary, je ne veux pas l'étudier, etc. Dans plusieurs matières, ce type de contestation se fait jour, et on voit le problème aujourd'hui émerger à l'université. Samuel Mayol, le directeur de l'UIT de Saint-Denis, a eu les pires ennuis parce qu'il a voulu mettre fin à l'infiltration islamiste dans son établissement et il a été victime d'agressions physiques et à la suite des événements du 7, 8 et 9 janvier, il a reçu à 3 reprises la une photocopiée de Charlie Hebdo, tout est pardonné avec cette inscription complémentaire, pas partout, en tout cas pas à l'IUT, puis il a reçu une impression de son portrait avec les yeux crevés. C'est quand même un phénomène extrêmement inquiétant, et si des intellectuels républicains y réagissent, ce n'est pas pour stigmatiser une population dont le statut est déjà précaire, c'est peut-être parce qu'ils ont conscience de cette pression dont parlait Jacques-Alain Miller.
Bon, il y a plusieurs questions. Bon, la première question, c'est la contestation du contenu des cours. Mais ça, cette contestation, elle a été faite de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on disait que tout ça, c'était du savoir bourgeois et que par conséquent, il fallait rien en prendre, par exemple. Donc, il y a une première chose qui est effectivement qu'il y a toujours mille manières de dire que le contenu des cours est erroné, qu'il est réactionnaire, qu'il s'en prend ou au prolétariat, ou aux classes populaires, ou à l'islam. Ça, c'est une première chose. Bon, la deuxième chose, effectivement, c'est d'instaurer un système où les gens ne se tuent pas, ne se menacent pas de mort en raison de leurs opinions, quoi. Mais ça, je dirais que précisément, ça veut dire on voit bien que c'est la création d'une sorte de climat de paix que on peut dire que toutes les mesures législatives prises depuis un certain temps ont fait exactement le contraire. Bon, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup de problèmes autour du voile lorsque les lois ont été créées, quoi. Or, je dirais que plus on a voulu légiférer, et plus on a créé vraiment ces espèces de rapports, rapports de haine des deux côtés.
Ce qui me frappe,
Jacques-Alain Miller,
ce que je viens d'entendre, comme dans ce que j'avais lu de toi, c'est, excuse-moi, mais le côté un peu étriqué, le côté franco-français de la question. Alors que le problème est européen, il est occidental, parce que ça commence aux États-Unis, il y a les prodromes de la chose, et il faut prendre aussi cette question dans la longue durée. Le débat, il y a un débat de l'islam et de la chrétienté depuis le 7e siècle. L'islam, qui était un événement de discours très minuscule, est devenu très rapidement une des grandes religions de l'humanité, universaliste, et a rencontré en face d'elle très vite la chrétienté. Bon, et pendant une dizaine de siècles, c'est l'islam qui a été conquérant, qui a fait des avancées, très peu de recul. Et tout s'est inversé depuis 3 siècles. Bon. Et avec des conséquences qui sont le sentiment d'humiliation et d'injustice. Et la rage date d'il y a longtemps. Nous en avons là la pointe actuelle, mais c'est très ancien. Bon, et avec le sentiment, disons, d'un ratage de l'islam dans son rendez-vous avec la modernité. Bon, et de ce ratage est née une certaine rage. Alors, ce qu'évoquait un historien qui a mauvaise presse, en effet, à gauche, qui est Bernard Lewis, l'historien de Princeton, mais enfin qui a écrit en 1990 un article qui s'appelle « Les racines de la rage islamique », qui est assez pertinent et anticipatoire. Bon, alors, tu dis tout ça dans des anecdotes, d'ailleurs, Alain Finkielkraut aussi évoque des anecdotes. Il faut le faire pour donner une présence à la question aujourd'hui. Mais enfin, il y a une volonté. Il y a en face une volonté qui est maçonnée par un discours extrêmement puissant, par des siècles. Et l'enjeu, en effet, est de savoir dans quel sens les minorités musulmanes européennes basculeront. Parce qu'en effet, l'islamisme politique est violent, meurtrier, ne concerne qu'une minorité. Donc le débat est de savoir comment la majorité, le centre, dans quel sens va-t-il basculer. Il y a des thèses selon lesquelles il faut justement donner, céder devant cette volonté. Et il y a d'autres thèses qui sont que céder ne fera que nourrir un appétit inextinguible et qu'il faut au contraire résister. Voilà un débat que nous pouvons avoir. Quelle est la voie raisonnable pour éviter ce qui me semble être un objectif commun, que cet islam politique meurtrier entraîne un nombre croissant de nos compatriotes musulmans.
Il y a plusieurs problèmes, c'est-à-dire que, bon, disons, ce ratage supposé de l'islam depuis trois siècles, bon, ça veut dire, non, mais ça a aussi des noms, ça a le nom de la colonisation, bon, ça a le nom, malgré tout, aussi de la colonisation, bon, européenne, ça a le nom de la colonisation israélienne, disons en terre palestinienne, ça a le nom aussi des guerres menées par les États-Unis ces dernières années, donc de ces nouvelles croisades. Bon, c'est-à-dire que c'est pas en général. Ce qui veut dire aussi pour moi qu'il y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire une volonté maçonnée? Le problème précisément de l'islam, ce qui rend les choses difficiles, c'est que bon, l'islam c'est pas l'Église catholique. Quoi, l'Église catholique, on peut faire des compromis avec elle parce que dans l'Église catholique, disons, il y a un pape. Et le pape décide et tout le monde suit. Bon, l'islam précisément est une religion.
Je termine.
L'islam est une religion dans laquelle précisément vous pouvez faire une fatwa. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui l'exécutent. Et aussi, vous pouvez déclarer vous-même que vous êtes imam et que par conséquent vous représentez la volonté. Donc, il n'y a pas une volonté maçonnée universelle à laquelle il suffirait de savoir s'il faut résister ou pas résister. Il y a nécessairement des problèmes et des problèmes qui se posent localement. D'ailleurs, je vous rappelle que malgré tout, dans cette affaire de Charlie précisément, ce qui était toujours mis en avant, c'est qu'il y avait une tradition française. C'est au nom de la tradition française que les gens se battaient. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, il y a localement, disons, des problèmes qui se posent qui sont complètement différents. Si on dit s'il y a une volonté universelle, bon, bah, à ce moment-là, bon, bah, c'est l'histoire qui va trancher, c'est même pas nous.
Non, mais il me semble, Jacques Rancière, que l'une des raisons de votre différend avec Jacques Alain Miller, c'est que vous, au fond, vous n'admettez à l'existence que le conflit des dominants et des dominés. Jacques Alain Miller parle de l'Europe, il parle de l'islam, qui est certes divisé, mais où une certaine volonté se manifeste. Mais vous, vous avez en tête le conflit entre les possédants et les dépossédés, les exploiteurs et les exploités, les maîtres et les esclaves. Et précisément, si l'islam va mal, c'est du fait de ce que les exploiteurs, des mauvaises actions, des dominants, qu'il s'agisse de la colonisation israélienne ou de l'impérialisme occidental. Mais peut-être que quelque chose d'autre existe, et il y a certains musulmans qui le disent, comme Abdennour Bidar, dans sa lettre ouverte au monde musulman, il dit « La religion peut être le cœur de réacteur d'une civilisation humaine ». Et il demande à l'islam d'assumer la responsabilité de l'autocritique, parce que je suis d'accord avec vous pour penser que la seule solution du conflit israélo-palestinien, c'est celle de deux États, mais en ce moment, Israël peut servir de bouc émissaire à l'islam pour ne pas justement tirer les leçons de ses propres problèmes, de sa propre crise, de son propre marasme. Mais en tout cas, est-ce que vous n'avez pas tendance à sous-estimer ce conflit-là entre l'islam et l'Europe, parce que pour vous, ce qui existe avant tout, c'est la lutte des dominants et des dominés.
Je ne résous pas tout à la lutte des dominants et des dominés. Bon, je veux dire que, malgré tout, l'islam, c'est aussi bien les manias du pétrole que les chômeurs et tous les gens un peu abandonnés de nos banlieues. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses à la fois. En revanche, je pense que c'est important, c'est que oui, il y a eu quand même une espèce de recrudescence religieuse, extraordinairement importante, qui a été vraiment liée directement à un certain nombre d'actions qui sont des actions, on peut dire, des attaques, ces dernières années. C'est-à-dire que, souvenons-nous quand même de ce que c'était que, par exemple, l'Iran des années 1950, quoi. L'Iran des années 1950. C'est-à-dire ces moments quand même où il y avait une espèce de volonté, un petit peu, de modernisation d'un certain nombre de pays, quoi. Et ça a été quand même, ça a été balayé, ça a été battu par, essentiellement parce que les Américains, sont effectivement intervenus. Je veux dire que, mais ça, c'est pas seulement pas d'une thèse des dominants et des dominés. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de pays, de puissances qui décident que l'ordre du monde, ça veut dire que voilà, c'est ce qui se passe comme ça. Tantôt, on va soutenir des dictatures parce qu'ils maintiennent l'ordre. Tantôt, on va soutenir, des combattants islamistes contre ces mêmes dictatures. Enfin, je veux dire que,
De façon générale, les gouvernants sont là pour maintenir l'ordre.
Non, mais ils sont là pour maintenir l'ordre, mais pour l'instant, ils ont quand même créé massivement le désordre. On peut dire que depuis quand même 60 ans, si on prend les politiques des États-Unis et des pays qui ont plus ou moins suivi leur politique, ils ont quand même créé, malgré tout, le chaos mondial monstrueux, au sein duquel l'islam radical a pu croître.
Très bien. L'époque où le communisme paraissait une alternative au capitalisme. Là, le monde était plus ordonné à cette époque-là, sans doute. Les États-Unis, en effet, ont même encouragé l'islam politique pour contrarier le communisme. Ils ont même encouragé les Saoudiens à prendre la tête d'un islam, de la reviviscence de l'islam sur toute le monde musulman contre le communisme. Bon, ils ont une responsabilité là-dedans. Bon. Maintenant, la question est celle des minorités musulmanes en Europe. Bon, elles sont constituées et il y a une politique qu'il aurait proposée, qui est suivie par un certain nombre, qui est pensée par les frères musulmans, qui consiste à dire, on célèbre la fameuse rhétorique de Tariq Ramadan. En fait, elle est assez simple, je l'ai écoutée, elle est assez simple. Elle consiste à dire, aujourd'hui, les musulmans sont vos compatriotes, ce sont des citoyens comme les autres, et je vous mets au défi de dire qu'ils ne respectent pas la loi. Ceci étant posé, puisqu'ils sont des citoyens comme les autres, il faut qu'ils aient leurs aises, il faut qu'ils aient leur bien-être, et leur bien-être passe par un certain nombre d'accoutrements, ou de nourriture, de piscines, etc. Bon, autrement dit, la loi, nous respectons la loi, mais nous changeons les mœurs. Et en même temps, on ne stigmatise que l'islam une fois qu'il est violent, meurtrier, et ça, ils ne veulent pas avoir affaire. Or, moi, ce que j'observe, c'est la politique qui est suivie maintenant, ou moins qui est annoncée, qui n'est pas encore suivie, mais qui est annoncée par les Tories en Angleterre et par David Cameron en particulier. Quand il dit « Trop longtemps, nous nous sommes contentés de demander, pas aux citoyens, mais aux sujets britanniques, de respecter la loi », et ce que nous avons obtenu, c'est d'encourager des discours qui préparent à la violence, qui ne sont pas eux-mêmes violents, mais des fondamentalistes qui ne partagent pas nos valeurs et qui sont donc le terreau de la violence. Et donc, il annonçait une volonté d'aller plus loin que l'obéissance à la loi. Alors, ça a été salué par le journal ça se trouvait déjà en février 2011, et ça se retrouve dans le discours de la reine il y a un mois. Ça a été salué par le journal The Independent, par c'est la chose la plus ignoble ou la plus insupportable qu'a jamais pu dire David Cameron. Moi, je crois que ça annonce l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne s'en tiendra pas au crétinisme juridique, et que, à partir du moment où un élément de la vie en commun aussi essentiel que les mœurs, et que un analyste peut appeler des modes de jouir, un mode de jouir est mis en question, on ira aux deux. On est obligé de faire passer le non-écrit dans l'écrit. Et donc, il y aura des lois qu'on te qualifiera de liberticides, et il y aura une avancée, parce que dire le voile, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas que la lutte des classes. La lutte des classes est dépendante d'une concurrence des identifications, des identités. Ça, j'ose le dire en tant qu'analyste et en tant que lacanien. Et même la lutte des classes passe par les identifications, puisque la pratique sur le terrain, la pratique marxiste, passe par nourrir et fortifier la conscience de classe. Donc il faut bien qu'on en passe par des identités. Et afficher et fortifier des identités contraires, déviantes, multiples, sont acceptées jusqu'à un certain degré, jusqu'à un certain nombre, et ensuite déclenche des réactions d'intolérance. Donc je crois que là, celui qui veut faire l'ange fait la bête, et que ces tolérances ou ces encouragements, c'est pour les musulmans, nous risque de nourrir des conflits sanglants.
Bon, il y a plusieurs points. D'abord, effectivement, c'est-à-dire que là, ce que tu annonces est clairement une espèce de torsion du discours républicain. C'est-à-dire, si on pense le discours républicain à une certaine époque, c'était les lois. D'ailleurs, je suis très très frappé par le fait que les républicains aujourd'hui ne s'intéressent absolument plus aux institutions. C'est absolument plus. Je suis très très frappé de ça parce que bon, moi, j'ai quand même étudié les républiques du passé où quand même la question des institutions était essentielle. Maintenant, effectivement, les républicains ne s'intéressent plus que aux
mœurs. Non, mais n'est pas un républicain.
Oui, non, mais précisément. Mais de toute façon, les républicains, la bonne république, finalement, c'est la république faite par les rois. Enfin, c'est un peu, de certaine façon, c'est un peu ce que dit d'ailleurs Alain Finkielkraut lorsqu'il parle du voile. Il dit, c'est un héritage glorieux de notre monarchie. Voilà. Donc, effectivement,
la république, c'est l'application de la monarchie absolue à la démocratie.
Revenons-en au centre de la question, quoi. Alors, je veux dire qu'il y a quand même une torsion du discours républicain qui s'assume pas, qui se dit pas clairement, qui dit que on va plus se contenter de parler de l'universalité devant la loi, on va parler des mœurs. Mais on va parler des mœurs, ça veut dire quoi, si je comprends bien ce que tu dis sur David Cameron? C'est-à-dire que on va prendre des mesures pour dire aux musulmans, vous allez plus vous habiller comme ça, vous allez plus manger ça, vous allez plus. Et bon, je veux dire, l'idée que comme ça on va obtenir la paix sociale ou la paix religieuse me paraît. Et la question de la lutte des classes n'est pas en question là-dedans. C'est pas la peine de toujours me renvoyer le fait que je serais une espèce de crétin qui ne verrait que le drapeau rouge et ainsi de suite.
Non, mais alors,
loin de mon idée.
Attendez, mais alors, justement, Jacques Rancière, dans le point, vous en prenez à un certain nombre d'intellectuels dont vous dites que quand ils étaient gauchistes, ils avaient le sentiment d'être dans le sens de l'histoire, puis les choses tournant autrement, ils ont pris en haine le peuple et ils sont mis du côté des vainqueurs. Évidemment, je peux me sentir un peu concerné. Pour moi, ce qui a compté beaucoup, c'est la découverte du phénomène totalitaire. Ça m'a conduit non seulement à une réhabilitation de la démocratie, mais surtout à une réhabilitation, sous l'égide de Kundera et de Miloš, de l'identité européenne, voire de l'identité nationale. Et c'est là que je vais en venir, en écho à ce que dit Jacques-Alain Miller. Laurent Bouvet a parlé très récemment, et à la suite de Christophe Guillouis, d'insécurité culturelle. Celle-là même que vit le peuple aujourd'hui en France. Une insécurité culturelle devant un phénomène comme celui-là, et les gens se disent, mais ils perdent leur repère, ils ne supportent pas de ne plus être le référent culturel là où ils vivent, c'est la raison pour laquelle ils quittent la banlieue. Donc, vous nous accusez, nous les Républicains, de prendre en haine le peuple, mais le peuple, visiblement, ne vous suit pas, précisément parce qu'il a le sentiment que toute une gauche considère avec le plus grand mépris ce phénomène d'insécurité culturelle et le rabat trop facilement sur la xénophobie et le racisme.
Oui, Jacques Rancière. Je ne me considère pas forcément comme un intellectuel républicain. Ma référence,
moi non plus, j'ai
ma
pas
référence
comme
républicaine,
référence.
Moi, c'est 1793. C'est la terreur, oui, c'est Robespierre.
Vous êtes robespierriste?
J'ai été robespierriste, j'ai décidé à l'âge de 13 ans d'être robespierriste.
Oui, enfin,
et je suis resté robespierriste à partir
général,
du livre
des décisions prises à l'âge de 13 ans.
À partir de Jean Massin, du livre de Jean Massin. Et je
vous embouche un coin.
Oui, oui, je vous embouche un coin.
Je crois que c'est tout à fait clair. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est effectivement la terreur au nom de la vertu que finalement Jacques-Alain Miller propose au peuple musulman de France.
C'est comme dit Olivier Roy d'ailleurs, il dit il faudrait pas que qui est pour la permissivité totale et qui dit il faudrait pas que la République devienne robespierriste. Ben oui, c'est toute la question.
Donc voilà, je crois que c'est ça qui est important à dire. Je viens de parler de David Cameron,
qui est le chef de la droite britannique, donc c'est pas tout à fait un robespierriste.
Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, bon, les arguments contre le voile, j'en ai un peu regardé un certain nombre, ils sont complètement différents, complètement hétérogènes, complètement contradictoires. Vous, c'est Robespierre, Alain Finkielkraut, c'est la galanterie de l'époque monarchique. Catherine Kinsler, c'est le sujet du savoir.
C'est la concurrence des identifications. Puisque chacun a apporté une petite anecdote, je vais en apporter une aussi. Moi, il y a une partie de ma famille qui vit dans une petite ville du Val d'Oise. Ce sont des gens, une partie de cette famille, leur mère a été la mère de... Personne en question a passé 3 mois en prison pour aide au FLN. Son propre cousin a passé 3 ans en prison pour aide au FLN à la grande époque. Ils ont dans leur famille même, je crois, quelqu'un a épousé une personne d'origine maghrébine. Bon, voilà, j'ai eu le récit suivant du malaise croissant. Et ce sont des personnes qui sont, disons, des fonctionnaires, des petits fonctionnaires syndiqués et de gauche. Et j'ai eu le récit tout frais d'une personne me disant, mais voilà, tout allait bien, on allait au marché tranquillement, et puis de plus en plus, on se sentait bravé par les regards d'hostilité, etc. J'ai eu une description à ras du sol par des gens qu'on ne peut absolument pas soupçonner de racisme, qui ont donné sur le terrain pour la défense de l'indépendance de l'Algérie à l'époque, etc., et qui se trouvent devant un curieux phénomène. Et oui. Donc là, la thèse comme quoi il y a une insécurité culturelle, pour reprendre les termes de Bouvet cités par Finkielkraut, moi j'en ai eu ce témoignage qui m'a stupéfait. Je n'aurais jamais pu croire avoir ce discours chez des gens qui sont aussi engagés dans la mixité.
Oui, mais justement, la question, c'est des questions sur lesquelles on peut toujours retourner les arguments à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire que cette insécurité culturelle, elle est aussi un effet de cette espèce quand même de braquage extraordinaire des camps qui, on l'a pas toujours connu. C'est-à-dire qu'il faut penser quand même à l'époque de la colonisation. À l'époque de la colonisation, le fait que les femmes musulmanes étaient voilées, ça gênait pas les colons français, les fonctionnaires français qui étaient là-bas. Bon, c'est-à-dire l'idée à l'époque qu'une femme ne devait pas être voilée pour s'occuper d'un enfant, par exemple, ça aurait été vraiment comique de dire ça à des colons français qui confiaient leurs enfants, s'ils voulaient, à des femmes musulmanes en Algérie. Donc il faut bien voir quand même qu'il y a il y a véritablement un espèce de changement qui est lié à la situation particulière disons des minorités musulmanes en France aujourd'hui, mais qui est lié aussi à cette espèce de climat où des gens tout d'un coup ont dit voilà, nous avons les grandes valeurs républicaines françaises. C'est ça la question, parce que identité française, ça veut dire quoi? Il y a plein d'identités françaises. C'est ça le problème.
L'islam, la plein d'identité française, il y a tout ce que tu veux, mais il y a des mœurs et il y a un mode de jouir, et quand il est contesté, tu n'imagines pas avec quelle violence les gens peuvent répondre.
Oui, mais enfin, je veux dire,
et c'est très différent des questions des identités qui sont, en effet, c'est pris dans des signifiants, comme nous disons, ça se prête aux métaphores et aux métonymies, les identités, mais le fondement dans le mode de jouir, lui, ne glisse pas et on tue pour ça.
Et concrètement, qu'est-ce que David Cameron ou bien nos gouvernants doivent faire, selon toi, pour régler cette question?
Chacun a mis l'air.
Je ne suis pas porté à imaginer un agent de l'histoire. J'ai tendance à penser que le flou qui est maintenu dans le pays sur ces questions-là est en fait anxiogène pour tout le monde.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Jacques Rancière, que le meilleur moyen d'assurer une certaine coexistence, sinon harmonie sociale, c'est précisément de fixer des règles et s'y tenir? On dit beaucoup de mal aujourd'hui de l'assimilation. J'ai été l'un de ses bénéficiaires. Pour moi, l'assimilation, c'était pas du tout
Napoléon.
Le sacrifice de mon identité. C'était la possibilité qui m'était donnée d'assimiler à l'école une partie, et une partie seulement, je ne suis pas un héritier, de la culture française. Mais admettons que le mot fasse frémir après l'épisode colonial. Au moins l'intégration. Vous voyez aujourd'hui qu'on parle de société inclusive, même le ministre de l'Intérieur. Or, société inclusive, ça veut dire que l'autre peut en effet prendre complètement ses aises. Il est totalement chez lui, il n'a rien à apprendre de nos mœurs et il lui revient même éventuellement de modifier nos lois de façon précisément à pouvoir se déployer comme il le souhaite. Cela me semble devoir renforcer l'insécurité culturelle. Et je citais Laurent Bouvet, mais je pourrais aussi citer Claude Lévi-Strauss. Il a fait, il y a déjà de nombreuses années, une conférence « Race et culture » qui a beaucoup choqué à l'UNESCO parce que il disait, comme l'a souligné Jean Daniel, que les cultures ont le droit de se protéger les unes des autres, ou en tout cas de persévérer dans leur être. C'est pas un discours exclusivement républicain, je vous le concède, mais enfin, c'est ainsi que la France a su relever jusqu'à présent le défi de l'immigration. Pourquoi s'arrête-t-elle aujourd'hui et pourquoi ne devrait-elle pas en effet, fixer des règles extrêmement claires?
Excusez-moi, mais vous parlez de choses différentes. Vous dites que les cultures doivent se protéger les unes des autres. Mais à ce moment-là, ça vaut aussi pour les musulmans et pour les Français non musulmans. Donc la question n'est pas une question de culture. Donc on peut pas toujours, non, mais on peut pas toujours, disons, se déplacer.
Il y a une culture française en France quand même. La culture française doit pouvoir s'imposer en France. C'est ça
mais
que je veux
dire. Mais ça tout dépend. Si on parle culture en termes effectivement culturalistes, on aura du mal à définir une culture spécifiquement
une civilisation française, si vous voulez.
J'en sais rien, mais je veux dire, il y a deux plans. Ou bien vous parlez de culture, et là, si vous parlez en termes d'anthropologue, vous parlez
facile,
au sens
c'est effectivement plus facile, de civilisation. En effet, du côté de l'islam, c'est plus facile de définir.
Non, mais attendez, j'ai pas fini. La question, je vous la renvoyais à ce moment-là, du côté de l'universalité. L'universalité des règles. L'universalité des règles, c'est très très bien. Mais il faut que les règles soient vraiment universelles. On est quand même dans des situations, dans des pays, est-ce que c'est dans des civilisations, où on voit très bien que les règles sont absolument pas universel, que malgré tout, je dirais, si vous prenez les règles juridiques, si vous voyez, on voit constamment effectivement qu'en gros, malgré tout, les puissants échappent à toute condamnation et que, les petits, excusez-moi, mais c'est un fait, c'est pas moi, c'est pas la lutte des classes, c'est pas le drapeau rouge, effectivement, n'échappe pas. Donc, je veux dire qu'on est dans un monde.
La lutte des classes, ta façon de t'exprimer ici comme dans ton article, ça me fait penser plutôt à l'option préférentielle pour les pauvres.
Il n'y a pas d'option préférentielle, la question.
L'option préférentielle pour les pauvres que de la doctrine sociale de l'Église.
La question est simplement que on peut pas aujourd'hui les règles sont les mêmes pour tous, parce qu'on voit bien tous les jours que les règles sont pas les mêmes pour tous. Lorsque les règles sont les mêmes pour tous, c'est une règle qui s'applique qu'à une minorité, ça colle pas. Et de fait, la minorité pense que cette règle qui est soi-disant pour tous n'est que pour les opprimés eux. Mais ça dépend pas de moi. Je suis pour rien là-dedans.
Vous diriez une conception, tu reconstitues complètement le mental du musulman minoritaire d'Europe, qui ne me paraît pas du tout correspondre à au témoignage qu'on en a. Ce qui me frappe au contraire, c'est qu'il y a, selon les termes d'Orwell, une common decency des musulmans qui estiment que ça ne se fait pas de toucher au prophète, de se moquer, etc. Et ça vaut pour les plus pacifiques comme pour les plus violents. Il y a quelque chose qui les rassemble, qui est ça. Ce qui fait que, même quand il y a ces actes meurtriers que réprouve la majorité, elle est malgré tout compromise là-dedans. C'est ce que souligne très bien, je trouve, Pierre Nora dans le dernier numéro du débat. quand il dit c'est comme pour les Français d'Algérie, on ne les entendait pas. Ils n'étaient pas pour l'OAS, mais on ne les entendait pas contre l'OAS parce que leur part d'ombre était malgré tout représentée par l'OAS. Il y a quelque chose, il y a ce conflit chez les musulmans et je pense qu'il faut les aider à le dénouer. Ce que Lévi-Strauss mettait surtout en lumière à propos de l'islam dans Triste Tropique, c'était le caractère anxiogène de l'islam lui-même pour les musulmans. On peut le discuter. Mais je crois que la situation actuelle est anxiogène pour les musulmans et qu'ils ont besoin, comme interlocuteurs, de personnes qui fixent, en effet, qui mettent des signifiants à leur place.
Alors, oui, mais ça, c'est une chose qui est complètement différente. C'est-à-dire, interlocuteur mettant les signifiants à sa place, bon, ça veut dire, effectivement, bon, ben, qu'on discute. Ça se réglera pas, mais ça se réglera pas par le type de, par les types de lois et par les types de rhétoriques invraisemblables pour savoir si une crèche associative qui remplit une fonction de service public est ou n'est pas soumise à la laïcité. Voilà, on vit quand même là-dedans. Oui, on vit quand même cette espèce de chicane juridique.
Des décisions beaucoup plus claires et beaucoup plus amples, je suis d'accord.
Parce que bon, des gens qui bon, est-ce que c'est les gouvernements, est-ce que c'est David Cameron être l'interlocuteur, je vous demande, je vous par la loi l'interlocuteur,
je vous pose une question,
ça qu'il faut savoir, quoi.
Une question
qui parle à qui,
une question Jacques Ancière, vous diriez que les musulmans d'Europe sont les opprimés.
Mais je n'ai plus peur, mais c'est pas le problème. Le problème est, disons, les musulmans d'Europe, ils occupent toutes sortes éventuellement de fonctions. Et je m'occupe simplement de voir, effectivement, en gros, la situation des gens qui appartiennent à la religion musulmane en France. Elle est effectivement une situation socialement plutôt dominée en général. Et la question est de savoir si on ajoute à ça, des mesures qui sont prises au nom de règles universalistes qui, par ailleurs, ne sont pas vraiment universalistes.
Dès qu'on parle de laïcité, on ne parle plus d'universalisme. La laïcité est une spécialité française qui est d'ailleurs mise en question à l'échelle du monde.
Mais justement,
elle est tout à fait... C'est le particularisme français.
On peut la justifier par notre civilisation et en outre...
Mais elle a supposé qu'on casse les reins quand même de l'Église catholique. Et elle a supposé que
c'est un rapport d'institution à institution, c'est ça le problème, c'est complètement différent.
L'expression est un peu violente et qu'on casse les reins du judaïsme aussi. Et il y a un très beau livre de Pierre Birbaum sur Bonaparte et les Juifs. Évidemment, c'est une histoire contrastée. Napoléon était lui-même antisémite, etc. N'empêche que le résultat a été de favoriser l'assimilation des petits Juifs comme Alain Finkielkraut à la République française. Bon, je pense, qu'il faudra sans doute, si c'est ça le but qu'on a d'intégration, il faudra aussi casser les reins de l'islam minoritaire en Europe. Ça suppose de renoncer à des propositions tout à fait, qui sont encore enseignées, pas par ces imams qu'on veut former, mais qui enseignent des propositions qui ne sont pas compatibles avec la République, comme l'Église, ça n'était pas compatible non plus, le catholicisme, il ne faut pas croire. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, le cardinal Scola, qui aurait pu être pape, qui représente l'Église profonde, j'ai été stupéfait de lire 4 pages de lui où il vomit Locke, Hume et Kant. Il n'est pas encore réconcilié en profondeur avec la séparation de l'Église et de l'État.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Le catholicisme était incompatible avec la République, le judaïsme aussi, et l'islam, évidemment, l'est, en ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'est pour toujours. Il y a des islams, mais ça suppose... l'intégration suppose de casser les reins de l'islam.
Attention, mais ce qui n'est pas clair, c'est que quand vous dites la République est incompatible avec le catholicisme. Bon, les républicains français étaient catholiques dans leur majorité. La question, c'était l'Église. C'est un rapport d'institution à institution. C'est très, très différent. Par ailleurs, lorsque vous dites, en gros, vous dites qu'il faut casser les gens, il faut casser les reins.
Si on veut une France multiculturelle, on n'a pas besoin de leur casser les reins, c'est vrai.
Mais il n'y a pas besoin de toute façon de la vouloir, parce qu'elle existe, elle a toujours existé,
Ce qu'on appelle le multiculturalisme, c'est de laisser des enclaves qui sont autogérées et qui ont leurs propres droits sur le territoire national. Les Anglais ont laissé ça pendant très longtemps. Il faut voir ce qu'il y avait des régions échappant où ils ont laissé la charia, en effet, être appliquée. Bon, les Français ne l'ont pas fait. on peut aller vers ça, à ce moment-là qu'on déclare son désir.
Il semblerait que si la France devient un pays, une nation, une société multiculturelle, les Juifs n'y ont pas leur place, parce que moi je veux bien que les musulmans soient majoritairement dominés, mais les juifs, bon, ce sont
ça,
les juifs qui s'en vont,
problème,
ce sont pas les musulmans qui s'en vont.
C'est un autre problème,
non,
comme
non,
dirait
Rancière. Non, je pense que c'est lié.
La minorité musulmane en Europe donne une base de masse à l'antisémitisme.
Voilà. Bon, mais oui,
ça,
mais
c'est un diagnostic qui n'est pas
non, mais c'est une des réalités avec lesquelles il faut composer aujourd'hui, puisque c'était aussi le sens des manifestations du 11 janvier.
C'est frappant de voir que en effet, moi, ça m'a fait un certain effet d'apprendre que les Juifs s'en allaient. Ça ne, la gauche, le gouvernement a été ému, semble-t-il, mais la gauche d'où je viens ne l'a pas été. La gauche de la gauche, ça a été au fond très philosophe avec ça. Là, j'ai constaté, en effet, un petit décalage.
Oui, mais bon, c'est une chose plus compliquée, parce que, bon, d'une certaine façon, que les Juifs s'en aillent, c'est aussi ce que Netanyahou leur demande, quoi. C'est-à-dire, il dit, en gros, bon, ben, finalement, oui, on a une politique un peu rude, mais bon, venez tous chez nous, on vous protégera tous.
C'est autre chose.
Ben oui, non, mais je veux dire, ça fait partie de ce complexe. Si vous voulez parler, si tu veux parler au nom, effectivement, de la situation mondiale, on a cette situation-là.
Je dis que ça pose un problème, que l'existence, c'est une nouveauté en France, que l'existence d'une base de masse donnée à l'antisémitisme.
Alors, je vous poserai toute dernière question, Jacques Rancière. Vous avez dit, dans l'entretien avec Éric Eschiman, tout le monde est d'accord pour condamner les attentats de janvier. Est-ce que, au vu de ce qui s'est passé, vous assumez cette phrase ? Est-ce qu'il n'y a pas, autour, justement, des attentats de janvier, une fracture française, une fracture en France ?
Quand je disais tout le monde, bon, on a polémiqué là-dessus avec Jacques-Alain Miller, bah, je disais tout le monde, en fait, duquel vous êtes membre, tout le monde dont vous faites partie, bon, Éric Eschiman, Jacques-Alain Miller, etc., c'est-à-dire le monde de l'opinion polie, etc., bon, tout le monde est d'accord. Ça, c'est un premier point. Pour condamner.
Tu disais que tu ne voulais pas t'en séparer.
Absolument, mais moi, parce que je suis quelqu'un qui appartient à l'opinion polie.
Mais c'était pas très courageux, parce qu'en fait,
excuse-moi, je ne me suis pas tout séparé. Je n'ai jamais aucun moment et aucun. J'ai jamais aucun désir. J'ai jamais manifesté aucun désir d'approuver le fait que quelqu'un tue quelqu'un, de toute façon, et en général.
Ah, vraiment, c'est la doctrine de l'Église, ça.
C'est certainement la doctrine de l'Église, mais toujours est-il que la discussion est tout à fait ailleurs.
C'est très différent d'un robespierriste, en effet.
Alors, la doctrine de l'Église pour Rancière, le robespierrisme pour Jacques-Alain Miller, voilà quand même une conclusion tout à fait surprenante. Alors, je voudrais vous remercier tous les deux pour cette émission absolument passionnante. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Un génocide fait-il une identité ?». Mes invités seront Nathalie Zgvorenek et Michel Marian. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique, aujourd'hui, Alain Joubert. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney. Au Népal et ailleurs, nature déchaînée, humain bouleversé, avec François Walter.